Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier temps de cette journée, une séance plénière autour d'une table ronde intitulée PEDT, état des lieux, enquête et entretien. J'accueille sur cette table ronde Françoise Moulin-Civil, rectrice de Lyon, mais surtout présidente du Comité national de suivi de la réforme des rythmes scolaires. Sylvie Martinez de la JEBVA, ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Dominique Noguès de la Caisse nationale des allocations familiales. Damien Bertillier, je tiens à excuser Marc Savicky et remercier Damien Bertillier d'avoir pu se rendre disponible du réseau français des villes éducatrices. Et enfin, Arnaud Tiercelin de la Ligue de l'enseignement, membre du CAP. Afin d'introduire cette table ronde, j'invite Yves Fournel, chargé de mission auprès de Pollock, à donner une vision, un état des lieux, un état des enquêtes menées aujourd'hui aussi auprès des collectivités sur la question de la mise en œuvre des PEDT, de leur construction, de leur élaboration. À toi, Yves.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais surtout essayer de soulever des questions, parce que les réponses ne sont pas toutes à notre disposition aujourd'hui. Cette journée s'inscrit dans un contexte national nouveau, après 3 années marquées à la fois par les urgences liées à la mise en œuvre de la réforme des rythmes et maintenant par la généralisation des PEDT, trop souvent réduits jusqu'à maintenant à l'organisation des temps scolaires, du périscolaire et des activités à mettre en place. Mais aussi, on est passé d'une première période avec des conflits et des polémiques, avec des difficultés de mise en œuvre, à des échanges plus constructifs qui ont permis souvent d'améliorer par la concertation les premières organisations pour les villes parties en 2013. Il est cependant trop tôt pour présenter des résultats de recherche sur cette réforme, sur les PEDT, sur leurs effets. Du moins, si on veut échapper à de simples constats et ressentis, marqués souvent par le contexte et qui n'interrogeraient pas les principaux enjeux éducatifs. Plusieurs études de terrain sont en cours, en Ariège, dans les Landes, dans le Nouveau-Rhône et sur la métropole de Lyon, en Seine-Saint-Denis, sur les politiques éducatives départementales en direction des collèges et des territoires. Nous travaillons aussi sur les logiques d'évaluation des projets éducatifs locaux et des PEDT, la connaissance des PEDT en cours de construction, avec les sites déjà évoqués, Villeurbanne et sans doute Clermont-Ferrand prochainement, pour déboucher sur un groupe de travail coopératif sur les démarches et les outils d'évaluation. Nous sommes entrés en contact avec l'Académie de Caen, qui développe aussi en lien avec l'université des travaux sur ce sujet. Nous avons par ailleurs un travail en cours de collecte de PEDT, avec déjà 110 PEDT sur les 5 strates de population, issues de 12 régions, 45 départements, assez représentatifs de la diversité des situations. Et on va compléter ce travail sur document par un questionnaire national sur les principales caractéristiques de ces projets éducatifs à partir de septembre et des entretiens qualitatifs de terrain sur une 15aine de villes de situations diverses. Alors, sur l'organisation des temps scolaires, à travers les rapports du Conseil national, du Comité national de suivi et d'une première lecture rapide des PEDT récoltés par l'Observatoire, à travers les premiers entretiens menés, on note la convergence des observations, avec d'abord une grande diversité d'organisation du temps scolaire et 3 types de situations. La plus courante est la réduction de 3/4 des 4 journées scolaires, basée sur la régularité, soit le plus souvent en fin de journée, soit en allongeant la pause méridienne, soit en répartissant 3 fois 1/4 sur les différents temps de la journée. Ensuite, on trouve une réduction de 1h30 sur 2 journées, soit les mêmes sur toute la commune, soit en partageant en 2 le territoire avec des journées différentes pour faciliter le recrutement et l'emploi des intervenants. Enfin, dans un nombre limité de cas, il y a réduction du temps scolaire sur une seule journée de 3 heures, avec des choix assez variés de la journée concernée. On doit noter en secteur rural la place croissante des intercommunalités qui ont déjà, ou prennent, la compétence éducation pour mutualiser les moyens, équipements, ressources associatives, recrutement. Et partout ou presque, on observe la mise en place de coordinateurs de projets éducatifs pour structurer la coopération des acteurs, leur articulation et la construction de projets communs. On note que les communes moyennes ou grandes structurent et renforcent, territorialisent, encadrement et services communaux pour faire face au développement du périscolaire et à la construction d'un projet local. Enfin, un premier résultat qualitatif à vérifier concernerait un nombre significatif de communes pour l'amélioration qualitative de la pause méridienne à travers l'encadrement et le contenu des temps hors repas qui posaient souvent problème. Pour les PEDT, on constate la même diversité que pour le temps scolaire dont je viens de parler. Ainsi, pour le périscolaire, on constate une grande variété, que ce soit sur les questions d'organisation ou pas en accueil de loisirs déclarés, avec la gratuité et ou les tarifs variés utilisés, les contenus d'activité, le niveau d'information, de concertation et d'association des acteurs éducatifs, des parents et des enfants, sur la place et le rôle des associations, clubs sportifs et structures culturelles, la gouvernance et la dimension participative des projets, la prise ou non en compte de l'enjeu des inégalités. Naturellement, la première vague de PEDT de 2013 et celle de 2014, avec un peu plus de 8000 communes concernées, comporte beaucoup de communes déjà engagées avant dans des projets éducatifs locaux, des contrats éducatifs locaux ou tout simplement des politiques ou actions éducatives locales, donc antérieures à la réforme, plus ou moins développées. Mais des communes ou intercommunalités rurales ou urbaines, non encore identifiées de ce point de vue, sont aussi fortement représentées, avec souvent une vie associative méconnue, sous-estimée, et l'atout de la proximité pour la concertation et les débats préparatoires. Et on relève aussi dans ces cas l'apport de l'éducation populaire pour la construction des projets locaux. Et jamais il n'y a eu autant de débats localement sur l'éducation entre enseignants, parents, associations et structures culturelles ou sportives, élus locaux, même s'il y a eu évidemment dans ces débats des conflits, des divergences, des polémiques, mais il y a eu ce débat sur l'éducation. Et ces débats, même difficiles, semblent produire petit à petit du commun, des réflexions, des initiatives, des actions, au-delà des simples questions d'organisation. Et c'est peut-être là le premier résultat le plus important, malgré les difficultés. Madame la rectrice de Lyon avançait récemment à l'École supérieure de l'éducation nationale l'idée de l'amorce d'une révolution culturelle dans l'éducation, avec l'ouverture de l'école et de ses professionnels sur leur territoire et sur les autres acteurs éducatifs. Et ce mouvement concernerait d'ailleurs aussi les acteurs locaux qui sont conduits à interroger leurs propres projets et leur articulation avec les projets d'école. Le travail de mobilisation des ressources éducatives locales est en cours partout ou presque autour de 5 thématiques. Éducation artistique et culturelle, lecture, sport, éducation au développement durable, citoyenneté et vivre ensemble. On peut aussi observer que la notion de parcours éducatif est de plus en plus sollicitée pour travailler continuité et cohérence des projets, ce qui nécessite d'interroger et d'étudier les conditions de cet apport des parcours. Et il faudra observer, étudier, analyser toutes ces évolutions pour en vérifier l'ampleur, l'inscription dans la durée, mais aussi leur qualité, et si les risques de disjonction comme de confusion ou de suggestion entre formes scolaires et périscolaires ont pu être dépassées. L'enjeu est bien de dépasser ce qui pourrait apparaître comme des slogans. Continuité, complémentarité, cohérence éducative et donc coopération éducative, pour leur donner un sens commun et pour ne pas confondre le moyen et l'objectif qui doit rester la réussite éducative et scolaire et la réduction des inégalités. L'ouverture de l'école sur son territoire participe d'un processus en cours, celui de la responsabilité partagée de l'éducation. L'article L111 du Code de l'éducation reconnaît la place de tous les acteurs de la communauté éducative, au titre desquels, outre les enseignants, les parents, les responsables d'associations et les collectivités territoriales. La logique collective du travail conjoint pourrait-elle prévaloir sur la logique individuelle du chacun pour soi, voire du chacun chez soi ? Il s'agirait maintenant d'investir et de donner du sens aux outils existants comme les projets éducatifs locaux, les PEDT, les volets éducatifs des contrats de ville, les PRE, et de les articuler au lieu de les empiler. Or, le partenariat est-il toujours élaboré sur le modèle d'un authentique dialogue plutôt que sur celui de la prestation de service, de la sous-traitance ou de la délégation ? La question se pose. Et les identités et cultures professionnelles se trouvent ainsi fortement interrogées. L'action partenariale contraint chacun à se décentrer par rapport à son environnement professionnel. Ce sont donc les pratiques professionnelles et les ambitions éducatives de tous les acteurs qui doivent être interrogées. Et avec le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de cultures, les apprentissages ont toute leur place dans cette logique partenariale. Et d'ailleurs, Ce socle commun peut-il être une référence partagée entre les acteurs sur les différents temps ? Là encore, une question importante. Et plus fondamentalement encore, quel sens et quels objectifs éducatifs doivent guider l'évolution en cours ? Il est bien sûr trop tôt, je le répète, pour faire une évaluation sérieuse, encore plus si on voulait mesurer des effets sur les résultats scolaires ou sur la santé, qui exigerait sur le plan scientifique une méthodologie difficile à maîtriser localement. Des recherches à moyen et long terme sont donc à programmer et mener. On estime par contre, selon le Comité national de suivi, que 80% des enfants ne participaient pas au périscolaire hors temps de midi avant la réforme, avec de fortes inégalités territoriales et sociales. Et les premiers chiffres connus évoquent entre 50 et 70% de participation, variable entre maternelle et élémentaire, ce qui représenterait une progression importante et donc une réduction des inégalités d'accès au périscolaire. Il restera cependant à vérifier qu'au-delà des conditions d'accès, le périscolaire va contribuer à une réduction globale des inégalités, en particulier en termes de contenu et de pratiques professionnelles. On note aussi une tendance au développement des déclarations en accueil de loisirs réglementés qui se traduit par des taux d'encadrement sérieusement améliorés, ainsi que la qualification des intervenants, même s'il y a des difficultés persistantes de recrutement et un besoin d'aide aux petites communes pour la mise en place. Les enjeux de formation continue, y compris partagés, de temps de concertation et d'exigences renforcées pour la définition et le partage des projets d'école comme des projets périscolaires sont posés partout et seront bien au cœur de la période qui s'ouvre. Alors, en termes de perspective, je fais l'hypothèse qu'on aborderait une nouvelle phase qualitative importante qui porterait au-delà des questions d'organisation sur les contenus des projets, sur l'articulation sans confusion du scolaire et du périscolaire, sur le croisement des cultures professionnelles, sur la place des parents et des enfants eux-mêmes dans leur évolution, sur la spécificité de la maternelle et sur les enjeux éducatifs fondamentaux autour de la réduction des inégalités et de la réussite éducative et scolaire. Il s'agit d'une vision globale de l'éducation, cherchant à articuler éducation formelle, non formelle, informelle, qui est au cœur de la loi de refondation de l'école, du pacte de 2013 pour la réussite éducative et du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui vient d'être publié officiellement. Les trois éléments qui constituent en fait un cadre national de référence pour les projets en cours. L'inscription des PEDT dans la loi de refondation de l'école et l'incitation à les généraliser à la rentrée 2015 pourrait marquer une étape importante dans l'évolution des projets éducatifs locaux et des rapports éducation-territoire. Le passage, en fait, d'un statut expérimental au droit commun, même s'il n'y a pas d'obligation formelle, mais une forte incitation. Cela repose aussi sur la question des rapports éducation-territoire, l'état du rapport national-local et dans le même temps la question des risques d'inégalité territoriale. En particulier, la question des territoires ruraux atouts et ou déficits en ressources éducatives est souvent soulevée. Le contexte est aussi marqué par les réformes territoriales successives et la place croissante de l'intercommunalité. Comme Madame Federini de la DGESCOL soulignait lors d'une formation récente du Centre Alain Savary, il y a concordance entre les lois de décentralisation, celles liées à la déconcentration, la politique de l'éducation prioritaire et la politique de la ville. Le territoire deviendra alors à la fois la source des questions scolaires à traiter et le lieu de solutions, je n'ai pas dit toutes les solutions, des questions scolaires posées. Comme elle le remarquait, la question de l'ouverture de l'école sur son territoire n'est pas nouvelle, mais force est de constater que cette ouverture n'est pas un fait acquis, loin de là, elle pose encore problème à l'école, et elle ne peut être proclamée comme un slogan ou indépendamment des enjeux d'apprentissage et de respect des spécificités de l'école, ou encore dans une logique concurrentielle entre les temps éducatifs. La volonté de territorialisation de l'action publique de l'éducation, engagée depuis plus de 30 ans, traduit aussi une nouvelle conception de la gouvernance publique. L'État souhaiterait désormais affirmer son rôle de stratège politique, de régulation, et l'entendrait laisser aux acteurs locaux la latitude d'action nécessaire afin de définir les modalités locales de mise en œuvre de ces orientations nationales. Avec cette marge d'autonomie dévolue aux acteurs, l'État reconnaîtrait la prégnance des besoins locaux et donc la singularité des territoires. Mais qui dit territoire dit aussi risque d'inégalité territoriale. Comme Madame Federini le rappelait, la question est de savoir comment prendre en compte les spécificités des territoires sans renforcer ces inégalités. Comment ne pas y enfermer les élèves, les enfants, les jeunes? Comment faire pour que le territoire soit pensé comme un espace de projet, donc un champ des possibles, alors qu'il peut être aussi vécu comme un espace d'assignation sociale, surtout lorsqu'il est stigmatisé? Les travaux sur la notion même de territoire montrent qu'il ne faut pas se cantonner à une lecture administrative et institutionnelle et que les habitants n'en ont pas une perception homogène en fonction de leurs déplacements, de leur réseau de relations et de travail. En quoi les territoires peuvent-ils mobiliser des ressources éducatives, humaines, patrimoniales, culturelles, espaces naturels, et être le creuset de coopérations éducatives entre acteurs? Quelles seraient là où les échelles pertinentes pour ces coopérations et leur mise en œuvre, et surtout pour quels objectifs? Pour qui? Se pose donc la question de l'identification des clés d'évolution des projets éducatifs de territoire, compris comme des projets vivants et évolutifs, non gravés dans le marbre, des projets participatifs, engageant leurs acteurs dans la production d'un commun, base du vivre ensemble et la construction de la citoyenneté. Alors en conclusion, aborder les PEDT ou PEL, c'est donc d'abord parler d'échanges et de partage, de coéducation, de territoire éducatif, de leur rapport avec l'État, et surtout d'ambition éducative, culturelle, sociale et de mobilisation des ressources éducatives locales au service de ces ambitions. C'est aussi identifier et interroger les références qui servent de socle, de base à ces démarches, les légitimes institutionnellement et collectivement en termes de politique publique nationale et locale. Certes, la mise en œuvre des PEDT se réalise avec des histoires antérieures, des conditions et des ambitions très diverses, à l'image des inégalités déjà en œuvre avant ces réformes. Et je me répète, du point de vue de la recherche, il est trop tôt pour en tirer des conclusions. On en est à un stade de constat, d'analyse de démarches non exhaustifs, de tendance à vérifier ou à infirmer, à débattre surtout, et ça sera l'objet de cette journée. Plusieurs registres sont à interroger avec naturellement une hiérarchie des priorités à préciser. Et comme la loi de refondation de l'école affirme fortement, le premier objectif de l'ensemble des politiques éducatives, et donc des PEDT, est la réduction des inégalités, et donc la question de l'ambition éducative et culturelle pour tous les enfants et les jeunes, pour chacune et chacun d'entre eux, avec une obligation à la fois collective et individuelle pour la société. Dans l'évaluation à venir des PEDT, il faudra donc s'interroger. En quoi contribue-t-il à cette réduction des inégalités déjà existantes? Avons-nous la même ambition partout? Adaptons-nous la mobilisation des moyens, des ressources éducatives au niveau des inégalités à surmonter? C'est donc aussi interroger les contenus des projets, des actions, au sens de leur contribution à l'acquisition du socle commun déjà évoqué, tout en étant attentif à préserver les spécificités et l'articulation des différents temps éducatifs. En quoi les parcours éducatifs peuvent-ils contribuer à cette mise en place progressive et à la coopération éducative des acteurs, sans confusion, autour de cet objectif? Enfin, il s'agit d'interroger les dispositifs, outils, organisations et moyens mis en œuvre pour structurer ces projets au service des objectifs nationaux et locaux et leur rapport avec les droits communs nationaux et locaux. Ces PEDT s'inscrivent dans des territoires divers, avec des niveaux d'orientation et de construction qui s'articulent ou entrent en contradiction parfois, et aussi avec un niveau départemental auquel a été confié un rôle de validation pour l'État, de contrôle des règles de sécurité et aussi d'accompagnement, d'aide, d'analyse sur les questions soulevées. Pour être terminé, pour avoir un sens, la question de l'évaluation des PEDT, de leur méthodologie et de leur référentiel ou outils adaptables localement devrait se poser dès maintenant. Alors finalement, ayons bien en tête dans nos débats les questions suivantes. Quelle ambition collective? Comment? Pour qui? Pour tout et chacun?
Merci Yves Fournel, merci pour ce propos introductif qui lance cette table ronde. Et nous avons une quarantaine de minutes pour réagir, en tout cas pour permettre à l'ensemble de nos invités de réagir. Bien sûr, il sera difficile de revenir sur l'ensemble des points qui ont été abordés dans ce propos. Et puis, ce que je vous propose, c'est de moins revenir sur les constats que de partir directement sur les problématiques. Et Yves nous posait une question en fin d'intervention. Quelle ambition avons-nous? Vous me disiez en préparant cette table ronde, Madame Moulin-Civil, l'ambition c'est peut-être une politique globale de l'enfant. Alors je suis étonné déjà, pourquoi une politique globale de l'enfant et pas de l'élève? Et pourquoi pas une politique globale de l'éducation ? Comment vous articulez les deux ? Et comment vous voyez la place de l'éducation nationale dans cette politique globale de l'enfant ?
Alors, si vous me le permettez, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, évidemment, d'avoir invité, moi, la rectrice de l'Académie de Lyon, que la présidente du comité de suivi national de la réforme des rythmes scolaires. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on parle de rythmes éducatifs et que c'est plutôt une chose heureuse. Et vous voyez, ça me sert un petit peu de préambule, évidemment, à la question, ou plutôt à la réponse aux questions que vous venez de me poser. Je partage évidemment beaucoup des constats que Fournel vient de faire devant nous, et j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur un ou deux. Oui, politique globale de l'enfant, et c'est précisément cette politique globale de l'enfant, j'ai bien dit de l'enfant, pas de l'élève, même si, évidemment, pour la rectrice que je suis, les élèves ont toute leur importance dans notre système. Je voulais peut-être commencer par un rappel tout simple, qui est que la réforme de l'organisation du temps scolaire, dans le premier degré, telle que, évidemment, elle est inscrite dans la loi de refondation de l'école de juillet 2013, eh bien, cette réforme, elle s'inscrit, oui, dans une politique globale du temps de l'enfant, cette politique qui permet précisément aux services publics d'éducation de contribuer toujours plus efficacement à la mission première de l'école, dont je rappellerai aussi que c'est celle de l'égalité des chances, que c'est celle de la lutte contre les inégalités sociales et territoriale, et c'est évidemment toute la politique qui est menée en matière de réussite scolaire et éducative. Un deuxième rappel, mais toujours pour parler de politique globale, qui est que la nouvelle organisation de ce temps scolaire poursuit vraiment deux objectifs. Un objectif pédagogique sur lequel je ne m'étends pas, mais c'était évidemment le premier objectif poursuivi, voilà, d'être plus respectueux des rythmes naturels d'apprentissage, de favoriser la réussite de tous à l'école primaire, mais surtout un deuxième, mais aussi plutôt un deuxième objectif qui est bien celui d'une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires, j'ai envie d'ajouter et extrascolaires, puisqu'évidemment le temps de l'enfant, c'est tout cela à la fois. Donc meilleure articulation de tous ces temps, afin que l'offre éducative, c'était bien le deuxième objectif de la réforme, que l'offre éducative des collectivités, complémentaire évidemment de l'offre éducative de l'école, contribue à la lutte contre les inégalités. Alors ces deux orientations, évidemment, et on le sait tous, relèvent de compétences différentes, sont pilotées dans des cadres différents, mais elles sont indissolublement liées. Et je voudrais juste expliquer ce point-là. Je crois que si la conduite de la réforme du temps scolaire et celle de la généralisation des projets éducatifs territoriaux mobilise évidemment des personnels et des moyens différents, eh bien cette distinction de méthode ne doit pas masquer le fait que ces deux politiques, alors je ne sais pas si je peux dire sont ou doivent être, vous savez, on est toujours dans un ajustement permanent, mais voilà, doivent interagir évidemment constamment. Et de ce point de vue-là, les activités évidemment qui sont proposées aux enfants, là encore une fois je dis aux enfants après l'école, ne sont pas des suppléments, ne sont pas, ou en tout cas plus des suppléments mis en appendice, évidemment, au temps scolaire. Non, ce sont bien des activités qui doivent contribuer de la même manière que le service public d'éducation, évidemment, à lutter contre ces inégalités. Et le deuxième élément de problématique, qui est évidemment lié à celui que je viens de rapidement exposer, c'est bien qu'on assiste, et vraiment, je crois que le comité de suivi de la réforme a vraiment vu cette montée en puissance de la refondation d'un nouveau partenariat éducatif, même si encore une fois c'est difficile. Mais la séance de lundi à laquelle a assisté Yves Fournel, à laquelle était présente Madame Martinez, bien sûr présente aussi à cette table ronde, je crois a pu en faire le constat. Aujourd'hui on peut parler plus facilement de coéducation ou d'éducation partagée, on a eu une petite discussion d'ailleurs sur ce sujet-là lundi. Je crois qu'évidemment cette dimension de la réforme du temps scolaire a été voulue par la loi de refondation, je l'ai rappelé tout à l'heure, à bien repenser cette articulation. Donc effectivement, elle ne s'adresse pas simplement à l'élève. Oui, sur le temps pédagogique, oui, mais elle s'adresse bien à l'enfant qui est, de ce point de vue-là, bien au cœur de la réforme. Donc c'est bien travailler à l'articulation des co-éducateurs. Et il me semble que, je voulais juste dire, et c'est pour revenir sur un élément de constat, et je finis là-dessus. Bien sûr, on a assisté à une évolution tout à fait quantitative des projets éducatifs de territoire, mais je crois qu'il faut plutôt penser qualité, des évolutions majeures vraiment depuis 2 ans. Nous sommes sortis de cette obsession organisationnelle pour investir véritablement d'autres enjeux qui sont précisément des enjeux éducatifs. Instauration d'un dialogue vraiment autour de l'enfant. Et en particulier, moi j'ai noté quelque chose, on parle aujourd'hui de plus en plus de l'émergence de parcours éducatifs. Voilà, celui qui commence à l'école le matin. Alors non, peut-être celui qui commence encore sur le temps familial le matin, voilà, qui se poursuit à l'école dans la journée et qui, évidemment, j'allais dire, est consacré aussi dans les activités périscolaires de fin de journée.
Merci beaucoup. Françoise Moulin-Civil, vous parliez de la question de refonder le partenariat éducatif. Vous avez cité les deux politiques, bien sûr, politique nationale d'éducation et les politiques locales d'éducation. Je passe la parole, bien sûr, à Damien Bertillier, qui représente pour une part les collectivités locales. Vous me disiez aussi, Damien, en préparant cette table ronde, qu'il fallait sortir de l'obsession organisationnelle, je reprends les mots de Madame la Présidente du Comité, de l'obsession organisationnelle pour passer à une nouvelle dimension sur la question éducative et que les collectivités avaient une large responsabilité à prendre pour passer à une dimension plus, ou une approche plus globale de l'éducation.
Oui, effectivement. Alors, j'ai pas prétention à représenter l'ensemble des collectivités. Je représente déjà les réseaux des villes éducatrices, ce qui suffit à mon bonheur aujourd'hui. Effectivement, je reprendrai pas un certain nombre de constats qu'a fait Yves Fournel, puisqu'on les partage pleinement. Le sens de ce que je voulais dire, c'est que on a une responsabilité qui aujourd'hui est dans la loi. Alors, il y a un certain nombre de collectivités qui n'ont pas attendu qu'il y ait le projet éducatif, puis ils existaient sous d'autres formes avant. C'est vrai que si Marc Savicky avait pu être présent ce matin, il aurait parlé de ce qu'a fait la ville de Brest depuis 20 ans avec un projet éducatif vraiment ancré qui a permis, par exemple, qu'un enseignant saisisse l'instance PEDT après les attentats de Charlie Hebdo. Et simplement cet exemple-là montre bien que quand il y a une habitude de travailler ensemble, il y a des évidences qui n'en sont pas du tout dans un certain nombre d'autres territoires qui peuvent le devenir. Donc c'est quand même positif, mais surtout aujourd'hui la loi reconnaît ce rôle-là. La loi de refondation reconnaît notre rôle en tant que collectivité, et donc il faut qu'on le prenne. On peut se plaindre de la baisse des dotations des collectivités à juste titre, parce que c'est sur les compétences obligatoires que ces dotations sont fondées. Mais on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir un rôle clairement défini aujourd'hui, reconnu, et que l'État est là pour rappeler et vraiment de travailler, je reprends les mots d'Yves Fournel, mais de créer des pratiques professionnelles communes, une culture commune, qui nécessite que, effectivement, on dépasse cet enjeu organisationnel-là, déjà parce qu'on en est tous assez lassés, mais parce qu'en plus, finalement, la réforme des rythmes scolaires est en œuvre dans toutes les villes de France et de manière globalement, ça fonctionne de manière globalement bien, et c'est de revenir aux fondamentaux, revenir aux objectifs qui sont la réussite éducative, la lutte contre les déterminismes sociaux sur lesquels on se retrouve. Et ça nécessite que on aille plus loin dans la culture commune, ça nécessite que les techniciens des collectivités, que les élus, s'approprient aussi le langage de l'éducation nationale. Et je pense qu'il y a un langage commun qui est celui du socle commun qui est intéressant. J'entendais Michel Lussault qui, dans la dernière journée que nous avions eue autour de Pollock en février, qui disait que même lui, il aurait aimé inscrire le fait que le socle commun, tout le monde devait se l'approprier et le faire sien, y contribuer. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre la place qui est celle de l'éducation nationale, au contraire, mais c'est que la meilleure connaissance du socle commun, la bonne connaissance des futurs programmes de la réforme du collège fera que le rôle des collectivités leur a du sens et qu'il n'arrivera pas comme ça, peut-être comme un cheveu sur la soupe ou simplement comme étant l'hôtelier, le gîte et le couvert comme ça pouvait exister par le passé. Et heureusement que nous arrivons à dépasser. Et puis il faut aussi évidemment que l'éducation nationale arrive à comprendre le fonctionnement des collectivités. Mais ça, c'est quelque chose qui, depuis 2 ans, se fait de manière assez intensive, quoi, dans la douleur au début. Mais on n'a pas d'autre choix que de toute façon de travailler ensemble maintenant, face aux enjeux qui sont les nôtres et face à tout ce qui a été mis en place, initié à partir de la réforme des rythmes scolaires. Et je pense, avec la réforme du collège, qui sera vraiment une étape sur laquelle les collectivités devront se mobiliser, eh bien, on n'a pas le choix et donc on y arrivera, quoi.
Alors, gardez le micro, je vous en prie, parce que nous avons abordé un deuxième sujet. Mais j'entends dire par-ci, par-là, que trop de collectivités locales dans l'éducation, c'était plus d'inégalités territoriales aussi. Et qu'à la fois les collectivités sur un territoire pouvaient travailler à la réduction des inégalités sociales entre les enfants de leur territoire, mais à la fois pouvaient accroître les inégalités entre les différents territoires au regard des moyens des collectivités, des capacités à mobiliser des ressources. Aujourd'hui, comment appréhendez-vous cette question-là au réseau français des villes éducatrices? Et où situez-vous la question de la régulation qui est nécessaire là-dessus?
Il ne faut pas non plus qu'on fasse semblant de découvrir qu'il y a des singularités territoriales et ce n'est pas la réforme des rythmes ou la plus grande prise en charge par les collectivités qui fait qu'il y a des différences. Il y a toujours eu des écoles rurales qui n'avaient pas la même organisation, les mêmes moyens, le même périmètre environnemental, les mêmes ressources culturelles. Voilà. Et l'un souvent compense l'autre. Entre l'urbain et le rural, il y a des opportunités, des ressources qu'on a d'un côté et de l'autre qui sont différentes, mais peut-être complémentaires. Donc ne découvrons pas ça, mais je pense qu'il faut bien effectivement qu'on fasse la différence entre les questions de singularité, de différence de territoire, et la question des inégalités, qui effectivement est un vrai risque. Il y a dans la salle un certain nombre de représentants de villes du réseau, et chacune vit certainement les choses de manière différente, et en même temps chacune a conscience que le rôle de l'État, de ce point de vue-là, il est primordial pour garantir, et on parlait d'État stratège, moi je pense que... quand on a de la décentralisation, on a besoin d'un État encore plus fort sur les questions stratégiques, sur les questions de régulation. Et c'est pour ça qu'on souhaite, et parfois on regrette, que l'État n'ait pas suffisamment le temps. Et quand je dis l'État, c'est à la fois l'éducation nationale, mais aussi sur les questions de réussite éducative, les DDCS, enfin, trouver du temps pour pouvoir parler de ces questions-là, pour pouvoir parler des questions d'égalité territoriale à l'échelle d'une ville, mais aussi à l'échelle d'une agglomération. Et le fait de sortir de ce temps un peu difficile de la réforme des rythmes, enfin difficile en termes de charges, va peut-être nous permettre d'aller vers ça et d'avoir des discussions avec l'État qui seront sur autre chose que simplement à quelle heure on ouvre et on ferme l'école. Voilà, donc moi je pense que l'État a ce rôle-là de régulateur et qu'il n'est pas du tout en opposition avec le fait que les collectivités, parce qu'elles sont dans le territoire, elles ont des objectifs, mais ce qui fera quand même qu'on ira vers plus d'égalité, c'est qu'avant il y avait les villes qui voulaient se lancer dans un projet éducatif qui le faisait, et demain toutes les villes seront dans un PEDT. Donc on va aussi vers plus d'égalité d'une certaine manière. Après, égalité ne veut pas dire nivellement de tous, mais on peut aller vers une augmentation qualitative pour tous.
Merci bien. Je me retourne après votre propos, bien sûr, vers l'État. Alors, et là, plus particulièrement, puisque ça concerne, pour une part, est interpellé fortement sur la question des inégalités territoriales et la réduction de ces inégalités, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports bien sûr dans son volet ville, puisque quartier prioritaire, mais aussi dans son volet jeunesse. Aujourd'hui, rôle régulateur de l'État, Sylvie Martinez, est-ce que, où situez-vous ce rôle régulateur? Est-ce que, j'ai envie de dire, je reprends les propos, c'est dans la tambouille organisationnelle ou c'est plus particulièrement sur une meilleure analyse des besoins des enfants et des adolescents sur les territoires, un développement qualitatif de l'action sur les temps de loisirs? Comment abordez-vous la question aujourd'hui?
Alors, cette question, elle n'est pas complètement nouvelle en ce qui concerne les collègues qui sont dans les territoires, puisque avant la réforme, il existait déjà un appui aux collectivités territoriales en lien avec les associations pour mettre en place des activités. Comme vous le disiez, là, c'est largement amplifié, puisque maintenant, tout le monde est dans la danse, alors qu'avant, il n'y avait que les gens qui voulaient bien danser qui y étaient. Donc là, le rôle des services, c'est effectivement d'accompagner les collectivités territoriales. Dans un premier temps, vous le rappeliez, on les a beaucoup accompagnés sur de l'organisationnel, puisque même si on veut dire que c'est derrière nous, c'est encore devant pour un certain nombre de petites villes, de petites communes. Je rappelle qu'il n'y avait que 6% des communes de moins de 200 habitants qui avaient un accueil de loisirs périscolaires avant la réforme. Donc 6%, c'est déjà pas mal quand on a moins de 200 habitants, mais c'est pas encore tout à fait ce qu'on vise aujourd'hui. Quand je parle d'accueil de loisirs, hein, pour moi, ça veut dire accueil de loisirs déclaré. Hein. Donc le but, c'est bien d'accompagner les communes, qui savaient déjà faire ça. C'est le plus simple, et c'est celles qui se sont lancées en 2013. Accompagner les communes qui sont plus en difficulté, ça a été le rôle des services, vous rappeliez, avec les moyens dont on dispose, qui ne sont pas forcément mirobolants, avec la connaissance qu'on a du territoire. Pour pouvoir accompagner les communes, il faut savoir comment elles sont organisées, quels sont les publics qu'on vise. Et donc cet accompagnement amplifié largement par la réforme. Donc vous avez posé la question de la qualité, de l'analyse des besoins et de la qualité qui doit y répondre. Dans un premier temps, on s'est attaché à accompagner les communes pour analyser leurs besoins. Le rôle important du diagnostic et du diagnostic partagé entre toutes les communes a parfois été occulté par justement l'urgence de déterminer des horaires, l'urgence de déterminer des organisations. Et donc cette étape d'un diagnostic partagé du territoire avec ses besoins, ses ressources d'abord bien sûr, ses ressources humaines, ses ressources, ses moyens financiers et ses besoins, puisqu'il y avait des besoins nouveaux qui étaient créés, mécaniquement, 3 heures libérées, ça fait qu'il faut répondre aux besoins des parents et des enfants, mais aussi des parents, besoins sociaux. Donc, accompagner les collectivités dans cette analyse des besoins et dans ce diagnostic partenarial. Partenarial, c'est aussi accompagner les collectivités vers les ressources associatives qu'elles ne savaient pas forcément, dont elles ne savaient pas forcément disposer sur leur territoire. Et ça, ça a été aussi le rôle des services d'accompagner vers les associations qui pouvaient conseiller. Lorsque la commune avait déjà un accueil collectif de mineurs, soit il était organisé en direct par la collectivité, à peu près dans la moitié des cas, soit par une association, la commune s'est tournée tout naturellement vers cette association. Lorsqu'on partait de rien, là, ça a été plus compliqué, et le rôle des services a été, le rôle de l'État a été d'accompagner vers cette aide. Je rappelle aussi qu'on a mis en place une banque de ressources à destination des élus. Quand je dis « on », c'est parce que je parle éducation nationale et jeunesse et sport. Puisque moi, je suis plutôt du côté jeunesse.
Merci pour cette première intervention. Alors, on reviendra là. Vous êtes revenu largement sur le rôle des services, des directions départementales de la cohésion sociale vers les territoires. On réinterrogera demain la politique nationale du ministère de la Jeunesse et des Sports pour accompagner cette réforme. Alors, la CNAF et les CAF ont été mis aussi largement à contribution ces derniers temps. Alors, plus particulièrement pour accompagner le développement quantitatif nécessaire, l'accompagnement du développement quantitatif si on ne veut pas créer des inégalités entre les territoires. À la fois, ce développement quantitatif n'est aujourd'hui pas suffisant. Il appelle à un autre, disons, à une autre impulsion pour un développement plus qualitatif. Aujourd'hui, à la CNAF, dans les CAF, dans la branche famille, comment abordez-vous cette question ?
Alors, je crois que je partage avec les participants le fait qu'on a dû passer 2-3 années là à assumer la vague en fait, de mise en place de la réforme qui nous a largement occupés dans les CAF et à la CNAF, parce que c'était un temps de calage, de négociation, de prise d'orientation. Et on a un peu cheminé aussi, hein, d'ailleurs, pendant ces 3 années, sur la manière dont on se positionnait et comment on accompagnait financièrement, notamment, cette réforme. Donc maintenant, on commence à sortir un petit peu la tête du guidon, je dirais, à se reposer et puis à avoir quelques éléments, même si on n'a pas, on est plutôt au début de l'évaluation, mais en tout cas, on a des observations, on constate un peu les tendances, ce qui se dessine sur les territoires. Et les points sur lesquels actuellement, et puis une problématique se pose à nous aussi, qui est la signature par les CAF des PEDT. Donc pour nous aussi, c'est une question, on parle d'inégalité, mais c'est aussi une question pour nous de comment on va accompagner les CAF pour que, sur les territoires, elles puissent être outillées et informées, qu'on partage ensemble la même vision des choses, les mêmes enjeux pour signer ces PEDT. Donc comment on avance? On a déjà fait pas mal de choses, hein, pour accompagner cette question de la qualité. Peut-être juste se dire que la qualité, c'est quoi pour la CNAF? Pour nous, parce que ça fait aussi l'objet quand même de débats, hein, au début de la réforme, au début de la mise en place de la réforme, pour nous, la qualité, ça passe par un accueil de loisirs déclaré. C'est notre prérequis. Pourquoi un accueil de loisirs déclaré? Parce que on sait que dans ce cadre-là, dans ces espaces-là, on va élaborer un projet éducatif, un projet pédagogique. On va se doter, alors après on pourra toujours discuter de la qualité et du niveau de professionnalisation, mais en tout cas on aura des professionnels. Et, donc c'est pour nous, la qualité, elle se traduit dans le soutien à ce type de structure-là. Et quels sont les débats qu'on a actuellement? Je dirais que ce qui remonte beaucoup actuellement, c'est la question du pilotage, en fait. Comment on va soutenir les collectivités pour, en fait, toute cette question de coordination, qu'on finance déjà, d'ailleurs, dans nos contrats enfance-jeunesse, mais comment on va accompagner cette question de la coordination qui est nécessaire maintenant, puisqu'on a une masse d'intervenants, on a une masse d'enfants qui fréquentent, on doit travailler ensemble, on l'a dit, on doit se concerter. Donc mieux accompagner cette question de la coordination et de l'animation du territoire. Alors le territoire, on parlait de territoire tout à l'heure, le territoire au niveau du lieu de l'activité, de l'école, du niveau de compétence de la collectivité, mais peut-être aussi la réforme a mis en place des GAD, des groupes d'appui départementaux, qui sont aussi des lieux qui permettent d'accompagner les territoires, de mettre en place des outils. Donc c'est aussi peut-être cette échelle-là qu'on pourrait mieux accompagner. Voilà, donc ces questions-là font un peu débat pour voir comment on va progresser. Et la question de deux autres points, la question de l'information des familles. Parce qu'on a fait un baromètre il y a quelques mois où on a interrogé 2000 familles dans le cadre de ce baromètre. Et elles disent notamment qu'elles ne sont pas forcément toujours bien informées de ce qui se passe sur le temps périscolaire. Indépendamment, je dirais, d'ailleurs, de la réforme, hein, d'une manière générale, ce qui se passe en dehors de l'école. Donc peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur la question de l'information des parents. et aussi pour nous de l'outillage des CAF, et on parlait de comment on va repérer sur les territoires on va faire un état des lieux sur les territoires de ce qui s'y passe, mais aussi comment on va mesurer la couverture des territoires. Sylvie Martinez évoquait le nombre d'ALSH qui sont sur un territoire, comment on va mieux connaître les publics des territoires et comment on va aider les collectivités à travailler sur ces questions-là. On a, nous, développé pas mal de choses sur le secteur de la petite enfance et on va probablement travailler à mieux se doter sur la question jeunesse par rapport à ça.
Merci. Alors nous cheminons dans cette table ronde, nous le voyons au fur et à mesure, mais Yves Fournel nous interpellait là-dessus, la nécessité de construire dans une perspective de coéducation de nouvelles alliances. Alors je les situerais à trois niveaux, sans doute les alliances institutionnelles entre institutions éducatives. Nous n'avons pas encore abordé la place des associations, mais je compte sur Arnaud Tiercelin pour l'aborder. Le niveau des alliances entre les acteurs éducatifs et donc de la capacité des enseignants, des animateurs, des intervenants sociaux, culturels, sportifs à agir ensemble, mais aussi, et là vous commencez à l'aborder, l'alliance avec les parents, les enfants et les adolescents, qui sont quand même les premiers publics concernés. Alors tout le monde parle d'alliance, mais on est aussi dans une tension entre alliance et conflictualité. Aujourd'hui dans le cadre des PEDT et alliance pour mieux faire ensemble, pour réduire les inégalités, mais ça passe aussi sans doute par dépasser les conflictualités actuelles et l'histoire même de ces conflictualités. Arnaud.
Oui, je pense que c'est sans doute un des bénéfices paradoxaux de cette période, c'est que, et Madame Moulin-Civil l'a rappelé, tout le monde, plus personne ne remet en cause la question de l'éducation partagée. Voilà. C'est au moins quelque chose qui est globalement acquis, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'éducation sur les territoires. Beaucoup plus que dans l'histoire, effectivement, de politique territoriale, hein, à d'autres époques, effectivement, que l'école ait conscience du côté incontournable de travailler avec ses partenaires extérieurs est quelque chose qui est le début d'une révolution, comme vous le disiez, Madame Moulin-Civil, et ça me semble extrêmement intéressant. Mais c'est peut-être aussi paradoxalement ça qui justifie qu'on en soit passé par une forme, finalement, de conflictualité, c'est-à-dire... On a amené un certain nombre d'acteurs, finalement, à rediscuter ensemble de questions éducatives, de représentations, de finalités. Pour l'instant, on a imparfaitement dépassé, j'allais dire, la logique des stéréotypes qui s'opposent les uns aux autres, de tous les côtés. Hein. Stéréotypes que peuvent avoir des animateurs par rapport à l'école, que l'école peut avoir par rapport à des professionnels extérieurs à l'école, incompréhension mutuelle. Et je pense que le travail, réellement, pour donner corps à la coéducation, à l'heure actuelle, est encore devant nous. Par la reconnaissance mutuelle et le développement vraiment de cultures partagées. Et c'est peut-être une des ambitions importantes de la période, c'est qu'il va falloir fonder localement dans les pratiques et l'évolution des cultures professionnelles de chacun cette conviction d'une éducation partagée en actes. Et puis une éducation partagée qui suppose par ailleurs en plus de vraiment avoir une réflexion, j'allais dire, qui peut-être ira un peu encore au-delà de ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire une réflexion sur l'immédiate périphérie de l'école, les fameuses 3 heures de périscolaire. Mais vous l'avez bien dit, Madame Moulin-Civil, je pense qu'un des enjeux importants, c'est, au titre de la globalité éducative, de vraiment prendre la mesure de l'importance de l'articulation de l'ensemble des temps. Périscolaire, extrascolaire, temps familial. Et ça, c'est peut-être encore quelque chose qui est à faire et que certaines villes font depuis longtemps quand elles ont une approche de projet éducatif local ou projet éducatif global. Mais l'idée serait de donner à voir que cette articulation de l'ensemble des temps est quelque chose qu'il faut qu'on pense. Et qu'on aille aussi d'une réflexion très centrée sur la question du premier degré à l'heure actuelle à la question que tu évoquais, que vous évoquiez, Damien, de ce qui se profile pour nous sur la réforme du collège, par exemple. Est-ce que l'école elle-même travaille de l'articulation entre le premier degré et le collège dans la perspective d'une éducation fondamentale commune? Mais en tout cas, c'est vrai que le bénéfice est en tout cas malgré tout d'avoir établi un périmètre d'acteurs qui maintenant ont à se constituer un horizon commun. Alors, Yves a présenté quelques pistes. Qu'est-ce qui pourrait constituer cet horizon commun? L'école, à l'heure actuelle, repense elle-même l'horizon et les finalités qu'elle se donne en mettant en place le socle commun de connaissances et de compétences. Je pense que c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. C'est l'horizon de l'école, mais est-ce que les questions, les cadres de référence posés par le socle commun peuvent inspirer une réflexion de l'ensemble des acteurs? sans nécessairement faire du socle, j'allais dire, la référence ultime pour tous, mais néanmoins, le socle balise un certain nombre de champs et d'enjeux éducatifs extrêmement intéressants, en lien avec les enjeux d'égalité, et je pense qu'on est tous préoccupés de ces questions-là. Aller un peu au-delà, j'allais dire, uniquement de la question de l'égalité d'accès, qui a progressé. On a largement augmenté l'accès des publics, des enfants, aux questions, autant périscolaires, autant en dehors de l'école. Maintenant, il faut se poser la question des effets concrets que ça a sur l'égalité par rapport à la réussite éducative. Ça, on est un certain nombre à avoir redit. Et il faut sans doute que là, dans cette phase d'évaluation et de réflexion sur les contenus, les projets partagés, l'articulation, on se repose cette question-là. Il ne suffit pas d'assurer l'accès pour assurer réellement une égalité, une progression de l'égalité dans l'accès à la culture et à l'éducation. Et enfin, pour faire court, je pense qu'un des grands bénéfices de la période aussi, mais qui est peut-être le point qu'il faut vraiment qu'on travaille de notre point de vue, nous, acteurs associatifs, c'est la question globale qui se pose autour de ces projets sur l'implication citoyenne au sens large, j'allais dire. Évidemment, c'est au fondement et de la justification de ce que nous représentons comme association d'éducation populaire, c'est-à-dire la capacité ou la conviction forte que nous avons qu'il faut accompagner l'ensemble des citoyens, usagers du service public, acteurs, à être réellement acteurs d'un projet collectif. Voilà. Alors évidemment, c'est le souci qu'on a d'impliquer les jeunes, les enfants eux-mêmes dans la construction de parcours éducatifs, d'impliquer les familles, j'allais dire, ne pas seulement les informer, mais réellement les impliquer. Voilà. Dans l'élaboration du diagnostic des besoins, dans l'élaboration de la mise en œuvre des actions, réellement progresser sur cette dimension-là, et prendre la mesure que la vie associative a ça de particulier, qu'elle s'est toujours fondée sur la capacité de créer des collectifs, de mise en capacité collective. Voilà, c'était dans nos projets pédagogiques et nos modes d'organisation, une conviction forte qui est aussi au fondement d'un certain nombre de professionnalités. Voilà. Et de cette place très particulière que l'éducation populaire peut avoir, j'allais dire, à l'interface de temps éducatif institué et puis de la vie sociale informelle, voilà, et qui a sans doute là, pour nous en tout cas, une contribution extrêmement importante à ce que ces projets soient aussi une occasion, pas que de faire progresser l'égalité par rapport à la réussite éducative, mais réellement de faire progresser aussi la question de la démocratie locale, voilà, et de l'implication citoyenne.
Merci Arnaud. Alors, tu as beaucoup abordé la question des conflictualités entre acteurs, aussi la question de l'implication et de la participation des citoyens à la question et à la chose éducative, qui est réducteur d'inégalités sociales. À la fois, il me semble que demeurent des conflictualités institutionnelles et très fortes entre l'État et les collectivités locales aujourd'hui, et qui sont exacerbées pour une part dans les réformes territoriales aujourd'hui qui sont en train de se construire. Vous en appelez, Françoise Moulin-Civil, un nouveau partenariat éducatif collectivité-État ou État-collectivité. C'est quoi pour vous ce nouveau partenariat éducatif État-collectivité ?
Il me semble justement que ce nouveau partenariat, j'ai même parlé tout à l'heure, ou alors j'ai peut-être rêvé l'avoir dit, de refondation du partenariat éducatif. Alors, il s'inspire beaucoup, évidemment, de tout ce que nous vivons depuis 2013, et on a bien vu, évidemment, les réticences, voire les résistances des uns et des autres, les uns à assumer leurs compétences, les autres, voilà, à bien rentrer dans le, j'allais dire, à la fois dans la lettre et dans l'esprit de la réforme. J'aurais presque envie de dire, mais ça va vous paraître un peu lapidaire, mais que c'est aussi un peu un mal français. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où, de toute façon, nous rentrons dans une réforme, et celle du collège pourrait illustrer mes propos, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ces réticences, ces résistances qui se sont installées, qui parfois, pouvaient être fondées, j'allais dire, sur des raisons réelles. Et on a essayé évidemment de sortir de cela. Mais c'est vrai que souvent, État, collectivité, et puis évidemment, le monde ne s'arrête pas là. Hein, il y a bien d'autres partenaires, et vous avez bien sûr fait allusion tout à l'heure aux associations de l'éducation populaire ou d'autres associations, évidemment tous ceux qui sont partie prenante de cette réforme. Voilà, nous voyons souvent toute action depuis évidemment notre propre fenêtre, ben, il me semble que la réforme des rythmes éducatifs précisément a permis un grand décloisonnement de ce point de vue-là. Moi aujourd'hui je ne parlerai plus de conflictualité institutionnelle, il me semble quand même, et les rapports des différentes associations de maires, enfin voilà, tous ces rapports qui ont pu être produits dans les derniers mois, montre bien que, y compris dans les collectivités où les plus grosses résistances se sont exprimées, on considère aujourd'hui que cette réforme, elle a permis précisément ces décloisonnements et ce regard, partagé sur l'enfant et ses besoins. Donc il me semble que nous avons globalement progressé.
Merci. Alors nous arrivons sur la conclusion de cette table ronde. 5 intervenants, 5 questions, une question chacun. Damien Bertillier, vous commencez. C'est parti. On parlait de la réforme territoriale. Aujourd'hui, la réforme territoriale, c'est une visée vers la restructuration, la structuration de l'intercommunalité en milieu urbain, métropole, en milieu rural ou périurbain, renforcement, élargissement des communautés de communes. Aujourd'hui, d'après vous, cette réforme territoriale sur la question éducative est-elle au service de la réduction des inégalités sociales ?
Bien, j'ai l'atelier 4 dans lequel je développerai ce point. J'aurai un peu plus de temps et je pourrais illustrer avec une organisation particulière qui est celle de la métropole de Lyon avec la prise de compétence des conseils du conseil général. Mais je pense que la loi de refondation a été dans un premier temps de remettre le premier degré à un niveau de ce qu'on pense être des standards européens quand même, et donc on a focalisé un peu là-dessus, ce qui a mobilisé beaucoup les villes. Et là, on voit bien que un élément important de la loi de refondation, c'est le lien entre l'école et le collège et la réforme du collège, et que les conseils généraux vont être amenés, les conseils départementaux vont être amenés à travailler dessus. Sauf que c'est là où je pense qu'on a un vrai enjeu, c'est de bien travailler ensemble, parce que autant imaginer que même à un horizon lointain, les agglomérations prendront une compétence sur le premier degré, ça me semble pas forcément ni pertinent ni envisageable. En revanche, le fait que les intercommunalités travaillent avec les communes de manière très étroite et coordonnée, c'est non seulement notre horizon à court et moyen terme, mais en plus c'est une nécessité du point de vue des enjeux éducatifs, parce que sinon on va recréer de la séparation là où justement l'éducation nationale est en train de faire le lien, d'ailleurs depuis un petit moment, mais là on entre dans une phase vraiment plus importante. Donc c'est notre enjeu et on en parle dans quelques minutes si ça vous intéresse.
Alors je me tourne vers Sylvie Martinez. Nous avons beaucoup abordé tout à l'heure les rôles des services déconcentrés. Aujourd'hui, d'après vous, quel est le rôle de l'État d'impulsion du niveau qualitatif sur les territoires ? Où l'État doit-il prioritairement agir demain ? Aujourd'hui, pardon, tout de suite.
Alors tout de suite, très clairement, c'est sur la qualité. Pour développer la qualité, il faut développer la qualité des intervenants. Donc développer la qualité des intervenants, ça peut se faire en tuyau d'orgue, ça peut se faire aussi de façon croisée. C'est ce qu'on essaye de viser. On travaille en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, on travaille avec les collectivités, on travaille avec les associations. Il y a donc des intervenants divers et variés qui sont face aux enfants, et ces intervenants, on attend d'eux qu'ils aient un langage commun, un langage partagé. Ce langage, c'est appeler élève des enfants ou enfant des élèves, mais c'est aussi proposer des valeurs communes, éducatives, et donc ça ne peut se faire qu'avec des gens qui ont réfléchi sur l'objectif qu'on leur assigne. Donc des gens formés pour pouvoir être en face des enfants dans les moments où on leur demande d'être, c'est-à-dire avoir la posture éducative au bon endroit et au bon moment. Donc une formation commune, c'est ce but-là qu'elle vise. On travaille avec le CNFPT parce qu'une des grosses, non pas surprises, mais quand même... quelque chose d'important qui est apparu, c'est que les activités périscolaires, elles ont été prises en charge beaucoup par les collectivités, beaucoup plus qu'on ne s'y attendait encore. Et donc, en direct, je veux dire, sans faire appel à des associations. Donc, interviennent des personnels des collectivités territoriales, interviennent les ATSEM, par exemple, mais aussi les animateurs des collectivités. Et donc, la nécessité de travailler sur la formation et sur la qualité des interventions, pour moi, me semble primordiale, et c'est le rôle... entre autres, du ministère qui s'occupe des diplômes qui permettent d'encadrer des enfants dans le cadre légal, que ce soit d'encadrer des enfants dans des activités d'animation, mais également dans des activités sportives, puisque, je le rappelle, là, pour encadrer des activités sportives, les diplômes sont obligatoires si c'est contre rémunération. Donc, la formation des acteurs, c'est quelque chose d'important. Là, je parlais du face-à-face avec les enfants, donc les animateurs, les directeurs. Dominique, tout à l'heure, faisait allusion aux coordonnateurs. Là, on est en train de développer un nouveau, pas vraiment nouveau métier, mais un métier qui prend de plus en plus d'importance. Donc, la coordination, qu'elle soit faite au niveau des collectivités territoriales, mais également au niveau de chaque objectif, c'est-à-dire de chaque école ou de chaque lieu dans lequel se passent les activités. Donc cette coordination, le lien qu'on fait entre les différents temps, la formation des coordonnateurs va devoir prendre un élan important, de mon point de vue, dans les années à venir, dans les mois à venir. Il n'a pas suffi, à Jeunesse et Sport, on a essayé d'adapter les taux d'encadrement pour que ce soit plus facile, pour que les collectivités territoriales aient moins de difficultés pour trouver des encadrants qualifiés. Pour autant, maintenant, l'enjeu, c'est la qualité de leur intervention et donc leur formation.
Merci. Alors, je vais terminer le tour de table et on vous a accordé quelques minutes pour prendre la parole. Je remercie les organisateurs de ces quelques minutes. Alors, Dominique Noguès, aujourd'hui, j'ai le sentiment, en tout cas j'ai envie de le partager avec vous, que le niveau d'impulsion de l'animation du débat se situe au niveau départemental. Les GAD, les schémas départementaux du service aux familles et à l'enfance, demain la question des conseils départementaux d'éducation à la santé et à la citoyenneté, des conseils départementaux qui se lancent dans des projets éducatifs départementaux. Globalement, tous ces lieux, tous ces espaces seront des espaces où se débattra l'éducation. Quelle coordination demain entre tous ces espaces-là ?
Tout à fait. c'est bien qu'on revienne sur cette question-là, parce que je pense que c'est une question qui se posera à nous, en tout cas à Branche Famille, mais qui se pose à l'ensemble des acteurs. On a développé effectivement des schémas de services aux familles qui concernent plutôt la petite enfance et la question de la parentalité, du soutien aux parents. Il me semble que si on veut être dans une logique de continuum de ce qu'on peut faire et proposer à l'enfant, de sa petite enfance, mais aussi jusqu'à son entrée dans l'âge adulte, il faut qu'on puisse revoir les choses et qu'on puisse avoir un outil finalement un peu cohérent. D'abord parce que c'est un peu toujours les mêmes acteurs, donc c'est mieux qu'on soit autour de la même table. Il faut qu'on mutualise un petit peu nos moyens, on n'en a pas à revendre parfois. Et puis penser ensemble. Cette continuité, on parle de continuité des temps, du projet, il faut aussi que ça se passe sur l'âge, tous les âges des enfants. Donc il y aura une question, je pense, à se poser sur la manière dont on va pouvoir articuler ces démarches-là. Et nous, ce qu'on voit qui est intéressant quand même dans la démarche de schéma, c'est qu'on peut, et d'ailleurs je reviens sur ce que vous disiez, on sera là dans une vraie politique globale de l'enfant finalement. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre autour d'une table, de faire un diagnostic, de cibler des lieux peut-être où il faut aller plus précisément, ou des publics qu'il faut accompagner plus précisément, quels moyens on va mettre aussi là-dessus. Enfin, il faut s'accorder sur toutes ces questions-là si on veut aussi avancer sur la question que vous évoquiez des inégalités territoriales.
Merci. Arnaud Tiercelin, association prestataire ou partenaire de l'éducation ?
La
association
la réponse.
Prestataire ou partenaire des usagers ?
Tous partenaires. tous partenaires à la hauteur, effectivement, comprennent la mesure de ce travail qu'on a encore à faire d'interconnaissance et de reconnaissance des légitimités de chacun. Voilà. Et effectivement, on le sait très bien, pour, tant pour les usagers que pour la vie associative, j'allais dire, il est toujours devant nous de gagner un peu plus de reconnaissance dans la possibilité d'être présent dans tous ces espaces d'articulation institutionnelle. Alors, j'allais dire, c'est... Parce qu'il en va d'un enjeu de conception même qu'on a du fonctionnement à la fois de la démocratie et de la cohésion sociale locale. Je pense que c'est vraiment un des points pour nous qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas le petit supplément d'âme, la question de l'implication des usagers ou de la vie associative comme représentante de l'auto-organisation des citoyens. C'est une condition même de la réalisation de son, dont on parle beaucoup là depuis quelques mois, la question des valeurs de la République, la possibilité de, notamment par rapport à un certain nombre de publics qui sont loin de ces questions éducatives, de les réimpliquer dans la question du commun, la constitution du commun. Et moi, je pense que c'est peut-être ce point-là que je marquerai, c'est qu'il faudra sans doute que dans tous ces espaces-là, on réfléchisse vraiment aux défis organisationnels de faire une place, chacun à son niveau de responsabilité et en fonction des différentes échelles de territoire, à ces questions et à ces enjeux-là, ces enjeux de citoyenneté, de laïcité, des enjeux, certes, on l'a dit, d'inégalité, mais aussi des enjeux de mixité, de rencontre et de diversité des publics, parce qu'il s'agit de constituer le commun, pas que sur une définition de contenu éducatif, mais sur les modes d'organisation et la possibilité de rendre chacun acteur de ça. Et peut-être qu'une entrée, Yves évoquait l'entrée par... une réflexion partagée sur des références autour de la réussite éducative, la charte de la réussite éducative. Le socle commun, non pas tant comme... Mais parce qu'il permet de baliser, effectivement, des grands enjeux d'une éducation qui prendrait en charge cette question d'éducation citoyenne, d'accès à la culture et au savoir, des éléments de questionnement commun, et peut-être une entrée par les parcours éducatifs, c'est sans doute une entrée intéressante, pour peu que les parcours éducatifs voilà, ne soient pas que des parcours individuels, et réellement réfléchissent des enjeux collectifs de mixité, de citoyenneté, de cohésion, de mise en capacité des acteurs, voilà, au service de l'égalité et de tous les enjeux du moment. Voilà. Donc, ça, je pense que la vie associative est assez légitime à ne pas être que prestataire de ces questions-là, mais réellement contributrice, voilà, de savoir-faire spécifique. Je vous invite, moi aussi je vais faire la pub de l'atelier cet après-midi sur la question des PEDT, des questions de laïcité, de citoyenneté, de vivre ensemble et de la manière dont on pourra aller travailler autour de ces enjeux de projet éducatif de territoire, parce qu'après il faut qu'on rentre dans le concret des modes d'organisation de ces questions-là et de la manière dont on peut les penser.
Merci Arnaud. Alors je voudrais poser une dernière question pour conclure cette table ronde à Françoise Molin-Civil. Aujourd'hui, vous en appeliez à une politique globale de l'enfance. Pour cette politique globale de l'enfance, ne faut-il pas une deuxième refondation de l'école pour qu'enfin l'école prenne l'enfant dans sa globalité ?
J'avais l'impression que vos questions précédentes étaient plus simples, mais bon, c'est... Non, alors, très sérieusement ou plus sérieusement. Vous savez, la loi de refondation de l'école de la République de juillet 2013, je ne crois pas que ce soit une loi faite pour le temps court. C'est bien une loi pour le temps long, qui est celui, évidemment, de l'éducation nationale. Et quand je dis éducation nationale, ne le sentez pas comme quelque chose de fermé, mais bien d'ouvert... évidemment sur la société et puis sur voilà, l'ensemble des questions que nous avons traitées ce matin. Il me semble que cette loi, elle porte de telles ambitions qui sont précisément voilà, des ambitions de continuité, de parcours, voilà, avec des temps différents. Le premier temps, et c'est Damien Bertillier qui a très bien rappelé tout à l'heure, le premier temps, c'était bien celui de cette priorité au primaire, bien oui, on a commencé par le début, ce qui peut être une bonne chose pour commencer, voilà, par cette école primaire qui avait besoin évidemment de recevoir toute notre attention et voilà, de bénéficier de dispositifs pédagogiques tout à fait innovants et tout à fait, j'allais dire, ambitieux, et en particulier évidemment dans cette priorité au primaire, la réforme réforme des rythmes éducatifs. Puis là, on est peut-être au temps 2 avec la réforme du collège, mais qui est bien sentie, qui est bien portée en cohérence et en continuité avec la priorité aux primaires. Donc, vraiment, je veux revenir sur l'opportunité qu'a constitué, que constitue évidemment encore cette réforme des rythmes éducatifs, voilà, qui permet de penser, de mettre en place, d'inscrire aussi dans un processus d'amélioration continue, j'ai envie de le dire comme cela, cette politique globale des temps de l'enfant. Et je crois qu'il y a dans cette, réflexion sur le temps global, eh bien sans doute un levier de changement, mais de l'école aussi. Voilà, on le sait bien, les enseignants ont été ceux qui ont manifesté le plus de réticence, parfois à rentrer ou à vouloir comprendre ce temps global. Et je voudrais dire que si on a affiché un petit peu d'optimisme à cette table, je ne crois pas que ce soit un optimisme béat. Je crois que c'est un optimisme qui est fondé quand même sur des constats de progrès depuis 2 ans, ce que nous avons pu accomplir collectivement, qui sont de vrais progrès. Alors voilà, dès qu'on parle de progrès, il faut aussi penser que ce sont des petites briques qui s'ajoutent les unes aux autres et qu'on n'est pas encore au bout de la maison que nous construisons ensemble. Mais il y a de vrais progrès que l'on peut constater. Il faut surtout pas se décourager, même si ici et là, sur le terrain, bien oui, l'école n'est pas encore assez ouverte aux parents et que nous y travaillons et que nous ne pouvons y travailler évidemment que collectivement, en particulier avec évidemment les associations de parents d'élèves, et je crois que c'est un vrai enjeu partagé. Voilà, nous devons évidemment continuer à former de façon croisée. C'est pour répondre à une deuxième question qui a été posée. Voilà, les sachants, les non-sachants. J'entends bien cette question-là. Je crois qu'elle nous préoccupe tous collectivement et que c'est bien la raison pour laquelle nous avons demandé que soient mises en place des formations pour aller vers plus de culture commune, justement. Bien là aussi, avant que... l'équilibre soit fait, ça nous demandera encore un petit peu de temps, mais allons vers cela.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 5, à toutes et tous les 5 d'être intervenus sur cette table ronde.